Bonsoir, comment allez-vous?
Mais qu'est-ce qui me fait?
Oh, oh là là, oh là là, oh yo yo, oh non, c'est pas vrai, je le crois pas. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah, il m'aura tout fait. Je comprends pas ce qui se passe. Bah, je m'y suis pourtant bien pris. Je sais pas, quand ça va pas, je laisse pas pourrir. Je demande conseil, je m'isole pas. Je reconnais, j'ai fait des erreurs, surtout au début. Mais là, tout allait bien. La semaine dernière, ça a roulé. Je me suis dit, ça y est, c'est reparti. Et puis là, patatras, sans prévenir. Je vois pas du tout ce qui a pu se passer. Mais pourquoi il me fait ce truc? Mais pourquoi? Je suis complètement perdue, moi, ça me prend toute mon énergie. Je vais perdre mon boulot si ça continue. On m'a dit, demande de l'aide à tes enfants. C'est embarrassant, ce sont des enfants. Bon, j'ai fait un travail sur moi, j'ai réussi à leur demander. Ils ont été formidables. Je sais pas comment j'aurais fait sans eux. Après, ça a été mieux. Je me suis dit, ça y est. Et puis là, boum, d'un coup, regarde. Mais il n'y a plus rien, nada, nos signes, que dalle, le grand néant. Mais je peux pas fermer, il me menace. Regarde, vous allez perdre toutes vos données. Il veut pas fermer de toute façon. Forcer à quitter. Ah la voilà la bonne idée. Je te quitte, tu entends? Je te quitte.
Bonjour, je m'appelle Valentine, j'ai 7 ans et je voudrais savoir comment les ordinateurs comprennent ce qu'on leur dit. Merci.
Bonsoir Valentine, nous proposons ta question à quelqu'un qui s'occupe des ordinateurs et même au-delà, Laurence Devillers. Vous êtes professeure à l'université Paris-Sorbonne, vous êtes chercheure au laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur au CNRS et vous travaillez également à Saclay. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Des robots et des hommes, mythes, fantasmes et réalités » édité chez Plon. Alors Valentine vous demande comment les ordinateurs comprennent ce qu'on leur dit.
Valentine, c'est une très bonne question. D'abord, les ordinateurs ne comprennent rien. Ils comprennent même pas ce qu'ils énoncent, en fait. C'est pas le bon mot, comprendre. Ils interprètent. On enregistre le signal vocal de quelqu'un, et puis on va essayer de retrouver les mots qui sont dits. Grâce à des systèmes, à des logiciels, à des programmes informatiques, on va être capable de transcrire à partir du signal, retrouver les mots qui sont dits, puis essayer d'interpréter, c'est-à-dire d'utiliser des modèles qui interprètent le sens des mots. Voilà comment ça marche. Mais l'ordinateur lui-même ne comprend rien.
Mais Laurence Devillers, quand je demande à mon téléphone, qui est un petit ordinateur, je voudrais aller aux Invalides.
Très bien, l'ordinateur va mémoriser l'information, il va transcrire, d'après le signal audio, en mots, sans rien comprendre de ce qui est dit. Puis ensuite, on a un système informatique, donc que les humains ont fait, qui va essayer de trouver les mots-clés dans la phrase, ou bien avec des modèles un peu plus sophistiqués, l'enchaînement des mots et à quel concept sémantique cela correspond. Mais en aucune façon, la machine a compris quoi que ce soit.
Il ne sait rien de mon intention.
Non, il n'en sait rien. Il n'a pas de conscience, il n'a pas d'émotion. La machine juste joue les programmes que les humains ont codés et mis dans sa mémoire.
Et les ressorts.
Exactement. Il les utilise, il n'a aucune conscience de ce qu'est l'entrée du signal. Et en sortie, il donne un résultat dont il n'est absolument pas conscient. Lorsque l'ordinateur, par exemple, joue au jeu d'échecs et gagne contre un humain, il n'est absolument pas content de quoi que ce soit puisqu'il n'en a même pas conscience. Il ne comprend pas ce qu'il fait. Au sens humain.
Quel dommage de gagner et de ne pas en profiter. Vous connaissez le principe des petits bateaux, vous posez des questions, les enfants et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Ce soir, vous avez demandé si les licornes existent, si on peut déclencher une avalanche en parlant fort et pourquoi on applaudit à la fin des spectacles.
Bonjour, je m'appelle Mélie et je voudrais savoir pourquoi nous mettons des pesticides de partout. Merci, au revoir.
Pourquoi nous mettons des pesticides de partout? Lydia Bourguignon, vous avez écrit avec Claude « Le sol, la terre et les champs » et c'est aux éditions « Sang de la terre », le sait-on seulement.
Alors bonsoir Nelly, pourquoi on met des pesticides partout? C'est parce que nos sols sont malades et en fait les plantes, comme les sols ne sont plus vivants, les plantes sont malades. Et elles se font piquer par des insectes ou elles se font attaquer par des champignons parce que dans le mot pesticide, il y a les insecticides, il y a les fongicides, il y a tous les produits qui tuent. Et donc pour protéger ces plantes, pour qu'elles arrivent jusqu'au bout, on est obligé d'utiliser tout ça.
Sinon, les plantes seraient malades.
Sinon, les plantes seraient malades et n'iraient pas jusqu'au bout.
Et qu'est-ce que vous appelez, Lydia Bourguignon, un sol pas vivant ?
Ben, un sol pas vivant, c'est un sol qui n'a pas de vers de terre, qui n'a pas de petits insectes, de petits animaux. Et à ce moment-là, et comme il n'est pas vivant, c'est le sol qui normalement nourrit la plante. Et quand un sol nourrit bien une plante, il va lui faire par exemple la membrane, la peau, comme notre peau à nous, qui va être beaucoup plus résistante, donc qui sera moins attaquée par des pucerons ou par des champignons. Donc on aura beaucoup moins à utiliser.
Il faut que le sol dans lequel se trouve la plante soit entre guillemets habité.
Habité, exactement.
Et ce sont ces habitants qui forme une carapace à la plante qui lui permet de se défendre contre les attaquants.
Non, c'est pas vraiment. Ces habitants vont recréer, vont faire un sol vivant. Sur les crottes de ces habitants, on va avoir des microbes. Les microbes vont fournir les éléments. Et ces éléments, par exemple le calcium, qui est très important même pour nous, hein, pour la, notre constitution. Si on n'avait pas de calcium, on n'aurait pas de squelette. Eh bien, par exemple, le calcium est très très important pour la structure, pour l'épaisseur de la membrane des plantes. Donc, quand c'est plus épais, ben, ça s'attaque moins.
Donc, pour répondre à Nelly, comme ce n'est plus dans le sol, c'est dans les produits.
C'est dans les produits. Et ce sont ces grosses multinationales qui sont toujours là derrière en vous disant, mais vous inquiétez pas, on a le produit pour tuer le petit puceron. Et puis, après, on aura le produit pour mettre le calcium qu'on n'a pas. Et c'est toujours, pour eux, ils disent que c'est un cercle vertueux, mais c'est pas du tout le cas. L'agriculteur ou le maraîcher, il est toujours obligé d'acheter. Et en plus, ces produits n'auront pas le goût qu'avec un sol vivant.
Et pourquoi ils sont nocifs, ces produits, ces pesticides?
Mais parce que, en fait, alors nous, ce sont des suppositions, hein, parce qu'on n'est pas, on travaille pas là-dessus. Mais par exemple, on prend un exemple sur un insecticide. Ce sont souvent des produits qui sont des bloquants du système nerveux. C'est-à-dire qu'on empêche l'animal, on empêche le petit puceron de bouger, et quelque part, il va mourir de faim, puisqu'il ne pourra plus bouger. Et pour nous, on se dit que nous aussi, on est constitué d'un système nerveux. Donc, l'hypothèse, pourquoi il est que mauvais pour le petit puceron et bon pour nous? C'est quand même une réflexion.
Je vous rappelle que Lydia Bourguignon, maîtresse science, a donc écrit avec son mari Claude « Le sol, la terre et les champs » édité chez Sang de la Terre.
Penche la guitare, entonnez les tambours, moi j'accorde ma basse, 1, 2, 3, 4. Nous faisons un vacarme de tous les diables. Chantez juste ou chantez fort. Je m'en fiche, je peux faire la rac à la musique classique. Edith Piaf ne regrette rien. Pour les discothèques, monsieur, je suis allergique au jazz. Percez, s'il vous plaît, sur le jukebox. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu fais le rythme, la cadence, la chanson alors. Musique moderne, populaire, c'est un organe. À la mode, alors enfants, fondrez-vous. Branchez les guitares, chantez les guitares. Je m'en fiche, je me fais le rap. Branche les guitares, le brio.
Et voilà, certains d'entre vous reprochent à des chanteurs français de chanter en anglais. Alors voilà qui va vous faire plaisir. Un groupe californien qui chante en français avec un accent très charmant d'ailleurs. Big Soul, c'était Le Brio.
Les petits bateaux sur France Inter.
Suivant le type de spectacle auquel on va, on fait différentes choses à la fin. On peut crier, on peut siffler, on peut lancer des choses. En tout cas, il y a quelque chose qui est assez général, ce sont les applaudissements.
Bonjour, je m'appelle Adèle, j'ai 7 ans et demi et je voudrais savoir pourquoi on applaudit à la fin des spectacles. Merci, au revoir.
Bonsoir Adèle. Agathe Sanjean, vous êtes conservatrice, archiviste de la Comédie Française. Pouvez-vous répondre à Adèle ?
Adèle, ta question est très jolie. Pourquoi on applaudit à la fin des spectacles ? Eh bien, pour marquer son approbation, son admiration, son enthousiasme devant ce qu'on a vu. Et cette pratique, en fait, remonte au tout début du théâtre, puisqu'elle remonte à l'Antiquité. Dans l'Antiquité romaine, par exemple, les applaudissements étaient extrêmement codifiés. On ne pouvait pas faire n'importe quoi, on ne pouvait pas applaudir quand on voulait. Il y avait des acteurs ou des chanteurs qui étaient chargés de donner le départ des applaudissements. Et un empereur romain, qui est Néron, a même institué une chose un peu particulière qui s'est perpétuée mais qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelle la claque. Et la claque, en fait, c'était des applaudisseurs professionnels qui étaient chargés d'applaudir à certains moments très précis des pièces de théâtre pour marquer l'enthousiasme du public et pour l'entraîner aussi à des moments clés de cette pièce. Et donc cette pratique-là, elle remonte à l'Antiquité.
Ça me fait penser au sitcom où on entend des applaudissements.
Tout à fait. Oui. À la télévision, on imagine toujours, voilà, que dans les émissions publiques, les applaudissements sont spontanés ou les rires. Pas du tout. Il y a des écriteaux qui sont diffusés devant les spectateurs ou même enregistrés comme pour le cas des sitcoms. Et on entend des choses qui ne sont pas du tout spontanées. Donc, il ne faut pas se tromper, en fait. Il y a les applaudissements de la fin du spectacle qui, là, marquent vraiment l'enthousiasme, mais il y a aussi tout ce qui s'intercale au milieu, qui peut être fabriqué.
À l'inverse, Agathe Sanjean, on siffle pas à la Comédie Française, c'est pas chic.
Ça ne se fait plus beaucoup, mais ça peut arriver, bien sûr. Et il faut savoir que le public du théâtre n'a pas toujours été un public très sage, au contraire. Notamment au XVIIIe siècle, un bon public de théâtre était un public qui réagissait, qui donnait son avis, qui interpellait les comédiens. On a même le cas, dans les archives, c'est inscrit, de certaines pièces qui étaient créées et le public était tellement mécontent et donnait son avis de manière constructive en disant « mais vous auriez dû raccourcir à tel endroit » que dans la nuit, les comédiens étaient obligés de changer le texte avec l'auteur et de présenter le lendemain une pièce totalement modifiée qui avait finalement obéi aux injonctions du public.
Il y a, Agathe Sanjean, des histoires mémorables de pièces qui ont été huées. On pense à Victor Hugo.
Oui, alors bien sûr, vous pensez à la bataille d'Hernani,
oui.
Qui est un grand événement de l'histoire de la Comédie Française. Donc on est en 1830, c'est le début du romantisme et Victor Hugo a réussi à imposer sa pièce de théâtre qu'il a fait passer au comité de lecture devant les comédiens qui l'ont acceptée. Les répétitions se déroulent. Et lors de la première, tout le monde sait que ça va être une bataille rangée dans la salle entre les partisans du romantisme et les anciens spectateurs qui étaient plus classiques, on va dire. Alors la question s'est posée justement de recruter une claque, puisque c'était l'usage, hein, la claque était recrutée par le théâtre, par l'auteur, par certains comédiens qui voulaient s'assurer un succès. Et Victor Hugo ne faisait pas du tout confiance à la claque qui était presque institutionnalisée. Il voulait au contraire faire intervenir ses amis. Donc il avait demandé au directeur du théâtre une centaine de places par soirée pour pouvoir les distribuer à ses plus proches amis qui allaient le soutenir. Et c'est ce qu'il a fait. Donc dans le fond de la Comédie Française, il y a certaines places qui sont marquées du nom hiero en espagnol, qui étaient les places réservées aux amis de Victor Hugo et qui ont permis d'avoir cette bataille dans la salle avec ses partisans et ses adversaires qui se sont vraiment affrontés pour ou contre cette nouvelle esthétique.
Il avait sa claque personnelle. C'est pas mal ça comme job. Je ne sais pas si c'est un vrai métier, si on aime le théâtre. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Je suis claqueur au théâtre. Agathe Sanjean a écrit une histoire de la Comédie Française éditée au Seuil.
Je m'appelle Lydie, j'ai 6 ans. J'aimerais savoir pourquoi quand on parle fort,
Les avalanches se déclenchent. Merci, au revoir.
Bonsoir Lily. Alors nous avons proposé ta question à un spécialiste des avalanches, spécialiste de la météo puisque vous appartenez à Météo France, spécialiste de la neige puisque vous êtes directeur du centre d'études de la neige à Grenoble. Alors est-ce qu'elle a raison Lily en parlant d'avalanches qui se déclenchent quand on parle fort ?
Alors d'après Hergé, Lily a raison. Dans Tintin au Tibet, on connaît tous, pour ceux qui ont lu cette BD, le capitaine Haddock qui arrive à déclencher une avalanche en criant très fort. Malheureusement, à l'épreuve des faits, il y a des collègues qui ont fait des expériences où ils ont soumis une pente de neige à différents niveaux de bruit. Et en fait, les avalanches ne partent pas. Pour les niveaux de bruit qu'on peut produire nous-mêmes avec nos propres voix, on n'arrive pas à faire partir des avalanches.
La castafiore peut briser un verre, mais vous ne pouvez pas déclencher une avalanche en criant.
Non, mais par contre, on peut déclencher des avalanches en faisant beaucoup, beaucoup plus de bruit que le bruit qu'on peut faire avec notre propre voix. Une avalanche, c'est une masse de neige qui est emportée dans la pente suite à une déstabilisation, sans rentrer dans trop de détails. Et cette déstabilisation, elle peut être soit spontanée s'il y a des grosses chutes de neige, soit provoquée quand un skieur déclenche une avalanche. Mais on a parfois besoin de déclencher artificiellement des avalanches pour purger des couloirs, pour sécuriser des zones à proximité des enjeux humains.
Ce qui est tombé ne tombera plus.
Ce qui est tombé ne tombera plus. Et une façon de déclencher des avalanches, c'est de faire des explosions à proximité des avalanches. Alors, il y a différentes méthodes pour le faire. Mais il y a certaines méthodes où on utilise une sorte de canon et on produit un grand boom, un grand bruit. Il est suffisamment fort pour déstabiliser le manteau neigeux et provoquer l'avalanche.
C'est donc le son qui agit sur la neige. C'est une histoire d'onde.
C'est l'onde sonore qui est émise, qui est extrêmement puissante et qui arrive à déstabiliser le manteau neigeux et à provoquer l'avalanche. Mais ça ne marche pas juste en criant.
De toute façon, que ça déclenche une avalanche ou pas, parler fort dans la nature, ce n'est jamais une bonne idée. Parlons doucement, voire ne parlons pas du tout. Samuel Morin est chercheur en physique de la neige au CNRS et à Météo France. C'était Black Pumas qui nous vient d'Austin, au Texas. Il chantait Old Man.
Bonjour, je m'appelle Adèle et j'ai 10 ans et je voudrais savoir si les licornes existent. Merci.
Adèle, peut-être une lectrice d'Harry Potter. Vous aimez ce prénom, me disiez-vous, Michel Pastoureau.
Ah, je trouve que c'est un très joli prénom. Bravo à tes parents, Adèle.
Michel Pastoureau, historien, historien du Moyen-Âge, historien des couleurs et des animaux.
Et des animaux réels ou imaginaires. La licorne, c'est un animal imaginaire, mais on l'y a cru pendant longtemps, dans l'Antiquité, au Moyen-Âge, encore à la Renaissance, dans les livres de zoologie. Il y a toujours un chapitre sur la licorne, on la décrit longuement. C'est un animal qui court très vite, qui ne se laisse pas capturer, qui emprunte ses formes à différents autres animaux, le cerf, la jument, le bouc, il a une queue de sanglier ou de lion, des pattes de taureau, une tête de cheval ou de chèvre. Mais surtout sur le front, une corne merveilleuse, plus ou moins longue selon les auteurs, qui a des propriétés remarquables. Elle élimine le poison, elle guérit toutes sortes de choses. Donc la tradition veut qu'on cherche à s'emparer de cette corne merveilleuse.
Et vous, Michel Pastoureau, qui avez écrit sur les couleurs, elle est blanche, non ?
En général, elle est dite blanche, la licorne d'un blanc immaculé. C'est signe de pureté, c'est signe qu'elle ne veut pas se laisser capturer. Si jamais elle est capturée, elle se laisse mourir de chagrin. Au Moyen-Âge, on raconte que pour capturer une licorne, il faut installer une jeune fille vierge dans la clairière d'une forêt. L'animal est attiré par l'odeur de virginité, vient poser sa tête sur le giron de la jeune fille et les méchants chasseurs arrivent par derrière, soit pour la tuer, soit pour la capturer, le but étant de s'emparer de sa merveilleuse corne. Alors on a cru à tout cela jusque au XVIIe siècle. Et puis à partir de cette époque, on commence à ne plus croire à la licorne. Il n'y a plus de chapitre sur la licorne dans les ouvrages de zoologie. Mais elle reste bien présente dans l'imaginaire, chez les poètes, chez les artistes. On les trouve encore dans Harry Potter. En effet, la licorne est un animal protégé. Il est défendu de tuer des licornes dans la littérature Harry Potter. Et puis, on peut souligner que l'imaginaire, ça n'est pas le contraire de la réalité. C'est une réalité d'un autre genre. Et pour l'historien, évidemment, il faut en tenir compte. Il faut l'étudier. Ça existe. L'imaginaire. On ne peut pas étudier une société sans étudier aussi son imaginaire, c'est-à-dire ses rêves, ses croyances, ses superstitions, ses symboles. Et la licorne est un animal vedette du bestiaire imaginaire.
Mais d'où, à votre avis, vient cette espèce de corne ? Il y a un animal qui aurait pu ressembler à ça ou...
On pense que ce sont de mauvaises lectures d'images antiques représentant des animaux cornus de profil, soit des grands bovidés comme l'auroch, soit des antilopes tout simplement, qui tous ont deux cornes, mais vu de profil, on n'en voit qu'une qui semble partir du front. Ou bien c'est une confusion à partir du rhinocéros, des récits lointains arrivés en Occident, en se déformant, et on a pris le rhinocéros d'Asie pour une sorte de licorne. Quant à la corne de licorne, conservée encore aujourd'hui dans certains musées, à partir des trésors d'églises ou d'abbayes, c'est le plus souvent une dent d'un mammifère marin, le narval, qui fréquente les mers froides de l'Atlantique Nord. Et cette dent, c'est la canine gauche qui se développe chez les mâles démesurément et qui a passé donc jusqu'au XVIIe ou XVIIIe siècle pour une corne de licorne.
Michel Pastoureau a écrit « Les secrets de la licorne » édité au Grand Palais et puis d'autres livres que vous trouverez sur le site des Petits Bateaux. Vous venez d'entendre une rediffusion des Petits Bateaux du 16 février 2020. Ces Petits Bateaux sont à podcaster ou à réécouter sur franceinter.fr. Marjorie Devoucou, Eliane Gérard, Noël Bréham, nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. Attention, le grand absent de l'été, c'est notre répondeur qui est parti à une marche de répondeur dans le Luberon.